Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une idée assez troublante de Dietrich Bonhoeffer, sur la stupidité. Et attention, hein, il ne parle pas de QI, pas du tout. C'est plutôt une sorte de faillite morale, un refus de penser.
Exactement.
Quelque chose qu'il a observé même chez des gens très instruits et qui serait, selon lui, encouragé par le pouvoir. On s'appuie sur des textes qui analysent sa pensée, née sous le nazisme.
Oui.
L'objectif, c'est de saisir ça. Et de voir comment, comment ça résonne aujourd'hui, comment des gens éduqués ont pu et peuvent cautionner l'intolérable.
C'est vrai que, bon, l'idée que la pression sociale, l'autorité, ça nous pousse à agir contre nos valeurs, c'est pas nouveau. On a des expériences célèbres là-dessus.
Oui, Milgram, H.
Voilà. Mais Bonhoeffer, il va plus loin, je trouve. Il parle vraiment de stupidité comme d'un phénomène spécifique. Morale, psychologique, pas juste une faiblesse passagère.
D'où sa phrase choc, contre la stupidité, nous sommes sans défense. Essayons de comprendre pourquoi il dit ça. Au cœur de sa pensée, il y a cette différence qu'il fait. La stupidité qu'il vise, c'est pas un manque d'intelligence. C'est moral ou psychologique.
C'est ça.
Il a vu des gens, des intellectuels même, soutenir des politiques horribles, en totale contradiction avec leurs propres valeurs affichées.
Oui, on pourrait presque parler de stupidité fonctionnelle, en quelque sorte. C'est quand on se met à répéter des slogans, des mots d'ordre, sans plus aucun recul critique. Et ça arrive souvent quand le système politique, social, médiatique, peu importe, rend la pensée indépendante difficile, voire coûteuse. Penser différemment, ça peut isoler, quoi.
Et c'est pour ça qu'on serait sans défense.
Parce que cette stupidité-là, elle est souvent convaincue d'être dans le vrai, d'agir pour le bien.
Exactement.
Elle est sincère dans son aveuglement. Du coup, les faits, la logique, ça ne passe plus.
Ça glisse.
Voilà. Et ça, évidemment, ça arrange bien le pouvoir en place. Ça évite toute remise en question sérieuse.
Et aujourd'hui, ces pressions, elles sont partout.
Ah, ben oui. La surcharge d'infos, déjà. Ça nous pousse vers les raccourcis, les plateformes numériques qui jouent sur l'émotion immédiate.
Plutôt que la raison, oui.
Tout à fait. Les discours politiques qui simplifient tout à l'extrême. Face à ça, renoncer à comprendre, ça peut devenir une sorte de stratégie de survie mentale, paradoxalement.
L'ignorance rationnelle, comme disent certains économistes.
C'est un peu ça, oui. C'est comme ne pas lire les conditions générales d'un contrat. On sait qu'il y a des choses importantes, mais l'effort paraît insurmontable.
Donc, en plus de la pression extérieure, nos propres mécanismes internes nous tirent vers le bas.
Exactement. Prenez la dissonance cognitive. C'est très inconfortable quand un fait contredit une croyance forte. Le réflexe, souvent, c'est pas de changer d'avis. C'est de minimiser le fait, le rejeter, trouver des excuses. C'est un mécanisme de défense puissant.
Et il y a aussi le groupe.
Oui, la conformité. Le besoin d'appartenir, de pas être exclu. On peut abandonner son propre jugement pour ça. Et puis les réseaux sociaux aujourd'hui.
Les fameuses chambres d'écho.
Voilà, qui nous confortent dans nos bulles. Une étude du MIT a même montré que les fausses infos s'y propagent 6 fois plus vite. Donc, oui, on comprend mieux le « sans défense » de Bonhoeffer. Nos esprits peuvent nous piéger nous-mêmes.
C'est assez déprimant comme tableau. Est-ce qu'il y a quand même des issues ? Bonhoeffer parle de grâce coûteuse. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, la grâce coûteuse. C'est pas juste une belle image. C'est l'idée qu'exercer sa pensée critique, rester fidèle à sa conscience, ça peut avoir un prix.
Un coût.
Oui, un coût social, professionnel, parfois physique. Bonhoeffer l'a payé de sa vie. C'est un engagement qui demande du courage, de l'effort, et surtout de l'humilité. Accepter qu'on ne sait pas tout, qu'on peut se tromper.
Et concrètement, au quotidien, on fait comment ?
Une piste, c'est ce qu'on pourrait appeler la friction intellectuelle. C'est-à-dire chercher activement à comprendre pourquoi quelqu'un pense autrement, même si ça nous hérisse.
Pas pour le convaincre, mais pour saisir sa logique.
C'est ça. Autre chose, simple, mais pas si facile, vérifier une info avant de la partager. Ne pas être juste un maillon de la chaîne.
De la désinformation, oui.
Et enfin, peut-être, oser dire « je ne sais pas ». Refuser de devoir avoir un avis sur tout, tout de suite. C'est déjà une forme de résistance à la simplification.
Mais est-ce que ces efforts individuels, ça suffit, face à des systèmes qui semblent parfois encourager cette stupidité fonctionnelle ?
C'est la question clé. L'effort individuel, il est nécessaire, mais probablement pas suffisant. Il faut aussi des changements plus larges.
Structurels.
Oui, plus de transparence sur les algorithmes qui créent nos bulles, par exemple. Une meilleure éducation aux médias, dès l'école. Des espaces qui favorisent le débat nuancé, pas juste l'affrontement. Il faut créer un environnement moins propice à cette forme de stupidité.
Pour résumer, l'avertissement de Bonnefard est toujours incroyablement pertinent. La stupidité dangereuse, ce n'est pas l'ignorance simple, c'est une tendance humaine. Une pente glissante sur laquelle on peut tous se retrouver. Surtout à notre époque.
Absolument. Et l'héritage de Bonnefard, c'est cet appel au courage intellectuel. Dans un monde qui souvent capitalise sur nos réflexes, notre paresse mentale, l'acte de réfléchir vraiment, de questionner, ça devient une forme de résistance. Essentielle. Une dernière pensée peut-être pour continuer à y réfléchir, choisir la curiosité plutôt que la certitude absolue. Chercher les preuves plutôt que de céder à l'émotion brute. C'est un petit acte, mais c'est défendre la sagesse humaine. Alors, quelle conviction bien ancrée serait-on prêt à regarder d'un œil neuf cette semaine ?